Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, et à ceux qui viennent de nous rejoindre. Nous sommes samedi soir, et comme d'habitude, ces derniers samedis, nous allons avoir une présentation de l'un des thème de la voie humaniste, ce soir, la méditation. Ce qui va d'ailleurs faire suite à notre retraite. Qu'est-ce que la méditation ? Dans une approche humaniste, non théiste, la méditation est le moyen, on pourrait dire l'outil, la méthode de transformation de soi, la méthode, le moyen aussi pour se réaliser. La notion de réalisation ayant le sens de réaliser la réalité de ce que l'on est réellement. La méditation est aujourd'hui bien connue dans ses formes de pleine conscience, pleine présence. Nous verrons tout à l'heure qu'il y a différents types de méditation. On peut en distinguer 4 ou 5 principaux. Mais ce qui est d'abord important, c'est que de comprendre la méditation comme moyen de se réaliser, comme moyen de se faire du bien, de réaliser ce qu'il y a de bon et de sain en soi. C'est une pratique de santé, c'est une pratique qui libère d'illusions, de passions, de différentes formes de problèmes, de difficultés, de souffrances, de mal-être. C'est une pratique de santé. Et si on comprend que pratiquer la méditation, c'est se faire du bien et vers un état de santé, c'est quelque chose que l'on a plaisir à accomplir et que l'on fait facilement. En quoi consiste la méditation ? Méditation le mot pourrait prêter à discussion, mais tel que nous l'entendons, est de développer l'expérience profonde de ce qui est. Et sa pratique est une pratique d'attention, d'ouverture, qui nous relie à notre nature, qui nous relie à la nature, donc c'est important de dire qu'il ne s'agit pas du tout d'une pratique exotique ou particulière, mais de développer l'expérience profonde de ce qui est naturellement. Le cœur de la pratique méditative est fondé sur la présence. Et c'est pourquoi on appelle méditation la pratique de la pleine présence. Et on utilisera, d'ailleurs, de préférence peut-être l'expression pleine présence plutôt que méditation, parce qu'elle est plus explicite. Donc, qu'est-ce que la pleine présence ? C'est la présence à l'instant, sans surimposer à celui-ci des projections, des jugements, des évaluations. C'est la simple expérience de l'instant présent, direct, immédiate, tel quel. Est-ce possible? Est-ce possible? Un point important est de se rendre compte qu'habituellement, déjà, nous ne sommes pas dans l'instant présent. Il serait intéressant d'observer combien de fois, combien de temps nous sommes vraiment présents. Le plus souvent, nous sommes dans nos pensées, on dit que l'on ressasse le passé, que l'on anticipe l'avenir. C'est selon l'un ou l'autre, c'est ce que l'on fait habituellement. Dans la méditation, pleine présence, on apprend à stabiliser sa faculté d'attention et particulièrement à stabiliser celle-ci dans l'expérience du présent. Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça sert à quelque chose? Il faut faire l'expérience. Il ne s'agit pas de croire, mais d'expérimenter. Donc, il y a quelques arguments pour encourager la pratique. L'expérience de l'instant présent est l'expérience de ce qui est sans surimposition, sans ce qu'habituellement on surimpose à la réalité en termes de projection, en termes de nom, de forme, de concept, d'appréhension, de projection. Et il y a une qualité à pouvoir expérimenter la réalité dans le retrait des projections. Il y a une grande qualité aussi à ne pas être constamment pris par ses pensées et ses émotions. C'est fatigant. C'est fatigant. C'est déjà fatigant d'être avec les autres, mais quand il faut être tout le temps avec soi, ça peut devenir très fatigant. Donc, un esprit calme, un esprit apaisé et heureux et vit une expérience qui est agréable. La méditation nous amène à découvrir aussi l'ouverture d'esprit qui ne se fixe pas sur des concepts en les solidifiant, l'ouverture de cœur dans une attitude d'empathie, de participation empathique qui est le fondement de la bienveillance altruiste, de l'amour, de la compassion. La pratique amène aussi clarté, vivacité, discernement, stabilité. Elle est aujourd'hui bien examinée et de nombreuses expérimentations scientifiques ont établi sa pertinence, sa validité, ses bienfaits, que ce soit pour le stress, que ce soit dans un domaine médical, que ce soit dans différents domaines aussi d'activité, quelle qu'elle soit. L'état de présence est l'état dans lequel se trouve naturellement optimisé ou dans leur état optimum nos capacités. On est 100% dans l'instant présent, 100% à ce qui est le propos de l'instant, 100% disponible, 100% dans nos ressources. Donc, entendu et compris ainsi, la méditation n'est pas du tout et seulement une activité que l'on pratique assis, bien que c'est ainsi qu'on commence à la découvrir, mais se trouve être l'état d'action, l'état pour l'action optimale. Et dans l'état de présence, quoi que l'on fasse, l'on est dans ses ressources optimales. Il y a ainsi des applications aujourd'hui diverses et variées de la méditation. En Angleterre, ils ont développé Mindful Nation. Mindful Nation est un projet britannique, avant qu'il quitte l'Europe, qui est né d'une initiative qui a fait que les parlementaires britanniques ont été invités à une séance des pratiques de mindfulness. On l'exprime par pleine présence en français. Et ils ont eu l'occasion de tester, de vérifier. On leur a montré aussi les résultats d'expérimentation scientifique qui validaient les bienfaits. Et un bon parlementaire, ils ont dit ben, c'est un bon truc. Et ils ont développé All Parties Parliament Mindfulness Group. un groupe parlementaire de toutes les parties, de tous les partis pour la pleine présence. Et ce groupe a développé un grand projet national qui s'appelle Mindful Nation. Ils n'ont pas eu peur. Hein, une nation de pleine présence. Et ils ont développé des applications dans quatre grands domaines, qui sont le domaine médical, le domaine de l'éducation, le domaine de l'entreprise et le domaine des prisons carcérales. Il y a des très beaux films et de très belles expériences, pas seulement d'ailleurs au Royaume-Uni, mais aux États-Unis ou en Inde. Tout cela, si vous êtes curieux, vous pourrez en trouver trace sur le net. Et c'est pour dire la pertinence et les applications diverses et variées. Pour conclure, un point aussi intéressant qui sont les différents types de méditation. Parce que même si la pleine présence est le cœur et le fond, il y a différentes formes de pratique. Et c'est important pour comprendre aussi la diversité. Un premier type de méditation est les méditations d'attention focalisée. Donc, une attention, l'attention, qui est focalisée sur une unique chose, en un point. Ça ne veut pas dire une concentration, même si c'est souvent traduit comme ça, c'est la concentration véhicule fort la notion d'un effort, mais en un point. Et une sorte de focalisation unique. Et c'est extrêmement pertinent, surtout aujourd'hui où nous sommes dans une civilisation du zapping, la capacité des enfants à rester attentifs à une chose diminue de plus en plus, ça devient même beaucoup de troubles de l'attention. Développer cette faculté d'attention qui, va sans dire, facilite quoi que l'on fait, quoi que l'on fasse. Deuxième type de méditation, les méditations d'ouverture sensorielle, d'ouverture des sens, vision panoramique, audition panoramique, sensorialité ouverte, globale. Ces pratiques d'ouverture favorisent la désaisie, le relâchement des fixations et des saisies. Un troisième type consiste à associer, à découvrir que l'association des deux premières méditations est possible. Ou dit autrement, qu'il est possible d'être à la fois dans une expérience ouverte et dans une expérience qui est stable et précise. Il est possible d'avoir au centre, au milieu de son champ sensoriel, une expérience précise et vive, tout en ayant un champ sensoriel ouvert et dégagé. Un quatrième type de méditation est les méditations qui mettent l'accent sur le présent, l'instantanéité présente. Alors, tout ce que je vous raconte, tous ces types de méditations, ce ne sont pas des états vraiment différents. Il s'agit d'approches ou de perspectives d'un même état et de méthodes ou de présentations qui prennent plus ou moins comme dominante l'une ou l'autre des orientations. Présence. Un cinquième type, alors on va en avoir six, parce que des fois on peut en mettre deux, on en peut regrouper deux. Mais. Un cinquième type est les méditations qui développent l'empathie, la participation. Quand on est ouvert et attentif, l'attention ouverte, la sensibilité ouverte, la réceptivité ouverte a une qualité empathique. On est un avec ce qui est expérimenté, on est un en communion avec l'autre, cette empathie. Cette empathie qui est la base de la bienveillance altruiste, qui est le fondement de l'amour, de la compassion véritable, qui est aussi l'état dans lequel se développe une relation ouverte, une communion empathique, une communication empathique, une communication-communion aussi, peut-on dire. Une bonne communication. Et le sixième type de méditation est un type particulier qui utilise des symboles. Des formes symboliques qui associent les précédents types, mais dans une dynamique particulière qui utilise le pouvoir transformateur et transmutateur d'une pratique symbolique. Donc, voilà ces six grands types de méditation. Et toutes ces pratiques méditatives constituent, nous disions au début, une voie de réalisation telle que nous l'avons définie. On peut dire aussi une voie de libération, de liberté, une voie du bonheur-liberté. Bonheur, santé et liberté eu égard aux illusions et passions qui se génèrent dans les saisies et les fixations dont progressivement la méditation nous libère. Le point et que la méditation est une pratique, un entraînement. elle a son efficacité dans l'assiduité, la répétition, la continuité en laquelle nous transformons nos habitudes petit à petit. Nos habitudes se transforment. Et cet entraînement dans sa globalité peut être envisagé avec trois volets qui sont afférents ou qui concernent une discipline de vie, l'expérience profonde et la compréhension de la réalité. Ce que l'on nomme les trois entraînements. Le premier étant plus particulièrement ce que l'on nomme la pleine conscience. C'est l'entraînement à une vie saine, une discipline de vie saine, en étant conscient de ce que l'on fait. Une forme d'attention, vigilance, responsabilité dans l'intelligence que certains comportements sont sains, amènent la santé, que d'autres sont susceptibles d'être pathogènes et d'amener des dysfonctionnements, des maladies et par là même aussi des malaises et des mal-êtres. Donc, cette pleine conscience comme fondement d'une vie saine, d'une discipline de vie saine. Deuxième entraînement, celui à l'expérience profonde, qui est plus la pleine présence, telle que nous en avons parlé tout à l'heure. La présence à l'instant, telle qu'elle. Cette pleine présence aussi, comme nous l'avons dit, qui est le lieu de l'action efficiente. Et le troisième entraînement, on peut le dire comme la pleine compréhension, c'est-à-dire l'intelligence de la réalité telle qu'elle se dévoile dans la pleine présence en une expérience une compréhension qui n'est pas conceptuelle, qui est dans un vécu, dans une immédiateté inconceptuelle. Et c'est là que se révèle la compréhension la plus profonde de ce que l'on est, de ce que l'on vit. Et cette compréhension est une expérience libératrice, profonde. C'est la dimension la plus intérieure de la voie de la méditation. Si vous avez des remarques, des questions, des observations, elles sont à ce point les très bienvenues. S'il vous plaît.
Bonsoir. J'avais eu l'occasion de discuter avec un psychologue au sujet de la pleine présence.
Oui.
Et pour lui, du point de vue de la psychologie, c'est le propre de la conscience d'être traversée par une multitude de pensées.
Oui.
Et que, par exemple, d'être en pleine présence sur quelque chose d'unique.
Oui.
Ou voire pas. C'était comme si c'était un peu la mort de la conscience. Enfin, je ne sais pas si je suis très claire, mais en tout cas, j'aimerais bien avoir votre point de vue là-dessus. Parce que, voilà, entre le point de vue de la psychologie, le point de vue de la voie humaniste, je ne sais pas trop.
Alors, point de vue de la psychologie, il faut faire très attention. Il y a beaucoup de psychologie et il y a encore plus de psychologues. Il y a aujourd'hui une multitude d'expérimentations, de documents scientifiques, de publications psychologiques sur le sujet, donc, et qui mettent en évidence des bienfaits avérés. Vous pouvez les consulter. Et si votre psychologue, celui dont vous parlez, a des problèmes avec le sujet, il peut consulter ses publications scientifiques. Cela dit, peut-être que sa remarque est très pertinente, mais vraisemblablement d'une pertinence qu'il ne perçoit pas. L'arrêt des pensées ou la suspension de l'activité mentale, de ce qu'il dit, de ce que je comprends des propos que vous rapportez, amènerait une mort de la conscience.
Disons que d'après lui, c'est vraiment le propre de la conscience d'être traversée par une multitude de pensées. C'est la conscience en elle-même, du point de vue de la psychologie. Voilà.
Nous sommes d'accord. Je pense, donc je suis. Et donc, je suis conscient car je pense. Ou penser et conscience, et même pensée et sentiment d'exister, opèrent simultanément. C'est une... Nous sommes d'accord. Maintenant, je pense donc je suis. Un corollaire... Je suis car je pense, ou on peut, à l'inverse, poser la question, que serais-je si je ne pense plus? Ne serais-je plus si je ne pense plus? Bonne question. En tout cas, elle est légitime. Socrate, tout comme le Bouddha, nous disait « Sache ce que tu es ». Alors, en mon âme et conscience, si on laisse l'âme dans un contexte humaniste et qu'on garde la conscience, et que la conscience existe dans sa relation à la pensée, d'accord. Le sujet est difficile. En une absence ou une réduction de pensée, on peut imaginer ou déduire, ne serait-ce que logiquement ici, qu'il y aurait moins de conscience ou moins d'existence. Oui, c'est vrai. Mais ça n'est pas un problème, c'est même une solution. Et alors, il y a là maintenant toute une question sur la nature de la conscience et la conscience ici est un processus cognitif dualiste qui se structure avec la pensée qui produit le penser ER constitue le penseur et la pensée. C'est-à-dire aussi ce qui est projeté et introjecté. C'est projection, introjection, les deux se pose l'un par un. Le penseur est introjecté alors que la pensée est projetée, tout ça dans le processus de pensée, pensée ER. Et dans cette suspension de ce processus de projection-introjection de la pensée duelle, il y a une expérience directe, immédiate, qui est cette expérience de la pleine présence et qui est tout à fait intéressante et tout à fait pertinente. Et ça n'est pas devenir stupide ni insensible, bien au contraire. Voilà.
Tout à fait, moi je suis bien d'accord, mais effectivement, je n'avais pas réussi à lire, redire.
Vous n'aviez pas la tchatche nécessaire pour discuter avec lui.
Voilà.
Mais envoyez-le à ses publications scientifiques.
Merci beaucoup, Lama Denis.
D'autres observations, remarques? Eh bien, je vous propose que nous passions un petit moment de pratique. Une petite pause de méditation en nous disposant confortablement assis. Confortablement assis, et nous pouvons garder les yeux ouverts, détendus, même peut-être un petit peu en hauteur, détendus dans une vision large, et ainsi poser. Nous pouvons sentir notre respiration. Elle passe dans nos narines. Et pendant quelque temps, de rester simplement présent à cette sensation. Nous sommes détendus dans une sensation globale ouverte et en même temps nous avons l'expérience du souffle qui va et vient. C'est très simple. Le point est de rester continuellement dans cette sensation, sans s'en distraire, sans discontinuité. Pendant quelques minutes, ainsi, silencieusement. Merci, bonne soirée.